Turn to Romans, please.
Tournez dans Romains, s'il vous plaît. Romains, chapitre 3. Chapitre 10, pardon. Romains, chapitre 10.
We had a great Christmas, didn't we?
Nous avons eu un bon temps de Noël,
wow,
n'est-ce pas?
That was, that's gone.
Mais c'est fini.
Wow, what happened?
C'est passé.
How many still have your tree up?
Qui ont toujours leur qui ont toujours leur arbre de Noël à la maison et qui vont le garder jusqu'au mois de mars. Moi, je le garde aussi longtemps que je peux. Avant, j'habitais dans un appartement au troisième étage. Et ma femme me dit, c'est le temps de jeter le sapin.
And when I went down the stairs,
je l'ai jeté par les fenêtres.
It was a brown skeleton.
Il est tombé donc sur son tronc.
That's how dry.
Et il était tellement sec que toutes les épines sont tombées, il n'y avait plus rien.
So I like to keep my Christmas tree until June.
J'aimerais garder mon sapin de Noël jusqu'à au mois de juin.
No, don't you think we should have trees in our house all the time?
Je ne pensais pas qu'on devrait avoir un arbre comme ça toute l'année. Et que penser de notre conférence? Et aussi, Pasteur Bob de Cincinnati. Nous avons eu des réunions vendredi soir, samedi soir, hier soir. Une vraie communion extraordinaire. Et nous sommes maintenant samedi matin. Dr. Lee, de Corée du Sud. Nous avons aujourd'hui et demain aussi, demain soir. Et nous entrons dans la nouvelle année pas en allant dans un bar.
Oh non,
pas dans un bar. Nous, au contraire, nous entrons dans la nouvelle année sur nos genoux. Et nous rentrerons bientôt dans l'année 2008. Et nous allons avoir une année exceptionnelle. J'aimerais enseigner Romains 10 verset par verset. Et j'aimerais que vous me suiviez, ça ne va pas être très long, mais important. Combien veulent apprendre leur Bible? Combien viennent à l'église pour apprendre leur Bible? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent juste m'écouter mais pas apprendre de leur Bible? Non, on va à la Bible, verset par verset. Donc verset 10, chapitre 10, verset 1. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, pour Israël, c'est qu'il soit sauvé. Paul aimait sa nation. Paul aimait Israël. J'ai rencontré trois Juifs hier dans la rue, à différents moments. Et il y en a un qui n'aimait pas du tout le christianisme. Et il me l'a dit. Mais je lui ai dit, est-ce que vous ne pensez pas que nous sommes aussi comme les Juifs? Il a dit oui, dans un sens. Et la Bible dit, je lui ai dit que la Bible dit que nous sommes les Juifs spirituels. Et j'ai dit qu'on aimait l'Ancien Testament. Donc il m'a dit, oui, vous pouvez aimer l'Ancien, mais pas le Nouveau. Mais c'était une personne que Paul aurait aimé, certainement. Paul aimait les gens de son pays. Au verset 1, on le voit ici. Mon désir, mon vœu et ma prière pour Israël, c'est qu'il soit sauvé. Donc le salut, c'est le thème ici de ce chapitre 10. Et on va faire un petit dessin, ce qu'on a fait dans le culte précédent, mais on va le faire aussi maintenant. Mais c'est une bonne image de ce dont on est en train de parler. Donc le salut dans la pensée de beaucoup de gens, c'est comme un processus, comme des marches qu'on monte les unes après les autres. Et donc l'homme monte ses marches et ça prend du temps. Combien de gens catholiques sont ici? Moi-même j'étais catholique avant, c'est ce que mon père m'a dit. Donc on nous a enseigné que le salut était un processus et que par ton comportement, ta bonté, ta sincérité, que par la qualité qui sont en nous quand tu es né, simplement, tu es né avec un potentiel de devenir sauvé. Si tu t'appliques toi-même, si tu es bon, alors peut-être qu'un jour, tu seras sauvé. C'est ce qu'on enseigne dans l'Église catholique, par exemple. Et donc, d'une façon similaire, les Juifs ont reçu la loi de Moïse. Et par le fait de garder la loi, ils ont eu cette idée, et leurs rabbins, au travers des siècles et des siècles, au travers de du Talmud, de la Torah, il y avait des commentaires dans le Talmud. Il y avait le Talmud de Babylone et le Talmud juif. Et il y avait toutes sortes de commentaires, de définitions sur la loi. Et donc Jésus est venu et dit, par le commandement des hommes, des rabbins, vous dites ceci et cela, mais je vous dis, et dans Matthieu 12, versets 3, 5 et 7, il dit trois fois, n'avez-vous jamais lu? Et il dit, comment se fait-il que vous ne compreniez pas? Donc, des gens pensent que, avec le temps et beaucoup d'efforts, on peut être sur la route d'aller au ciel. Mais cet homme, alors que Dieu est 100% saint, cet homme, lui, n'est pas saint. Peu importe à quel niveau il se trouve. Il se trouve à un certain degré, mais dans son sens, dans sa propre perfection, à différents niveaux où il se trouve sur les escaliers, il se sent saint, plus ou moins saint. Et il envoie un plus bas et il dit, non, lui, il est moins saint. Au verset 2 du chapitre 10, il dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Et si vous allez à Israël, ils sont là au mur des lamentations. Les Juifs sont là dans leur orientation, dans leur intérêt. Comme du temps de Paul, ils ont un zèle pour Dieu. Mais sans intelligence, c'est-à-dire pas en accord avec la vraie connaissance. Pas la vraie connaissance. Ils ont de la connaissance, mais ce n'est pas la bonne connaissance. Ce n'est pas en accord avec la compréhension, la vraie compréhension. Il manque quelque chose. Et ce qu'il manque, c'est la grande idée de la justice. Parce que parfois ils prient, on voit ça dans Luc 18, « Oh Dieu, merci que je ne suis pas comme lui. Je ne suis pas un pécheur comme un publicain comme lui. Oh merci Seigneur. » Qu'est-ce que cela veut dire? Il se tient peut-être sur une marche supérieure. « Je te prie, Dieu, en référence à lui qui est plus bas que moi, parce que moi je suis meilleur que lui, n'est-ce pas? Oh, gloire à toi, Seigneur. Je fais pas mal. Je suis juste, quelque part. » Et l'apôtre Paul lui-même faisait partie de ces gens-là. Et il a dit, au regard de la loi, j'étais sans blâme. Parce qu'il ne voyait pas dans sa vie aucune erreur concernant la loi. Parce qu'il gardait la loi. mais ne gardaient pas vraiment.
Mais
en accord avec sa connaissance et sa compréhension de la loi, il avait du zèle pour Dieu, mais pas vraiment en accord avec la réalité et la connaissance de la pensée de Dieu. Car personne ne peut garder la loi dans toute sa plénitude, dans sa qualité profonde, intrinsèque. Il n'y a personne. Regardez au verset 3. Car ils ne connaissent pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. J'ai fait ça moi-même, n'est-ce pas? Et vous-même aussi, n'est-ce pas? Je vais me lever très tôt le matin, je vais prier. J'ai entendu Pasteur Stevens parler de ça et je m'engage à faire ça. J'aime ça. Disons par exemple, je vais me lever à 5 heures ou à 6 heures et je vais prier. Je fais ça tous les jours. Et j'étais bien à faire ça. Et alors que je faisais ça, je me suis dit en moi-même, hey, tu es pas mal quand même, tu fais ça tous les jours. Et peut-être je devrais le faire à 5h30, tiens. Et ce sera mieux encore. Alors, ça veut dire que peut-être je peux améliorer ce que je fais. Peut-être prier deux fois par jour. Peut-être tard dans la nuit, tôt le matin. Et alors que je garde cette structure de vie, il n'a pas fallu longtemps pour que je me pose cette question. Qu'est-ce qui est plus important pour toi? La nature de Dieu ou ma justice? Ou mon habileté, mon engagement, ma sincérité, ma performance, mon obéissance dans le contexte de ma propre structure? Parce que peut-être, et cela arrive, un certain matin, je me suis réveillé et Dieu m'a parlé. Et il me dit, non, ne te lève pas de ton lit. Et il semblait que la chambre était remplie de la présence de Dieu. Et Dieu me dit, arrête d'essayer de performer des choses. Laisse-moi t'aimer et te donner la grâce. Laisse-moi te servir. Laisse-moi laver tes pieds. Parce que le but de ta vie, ce n'est pas toi et la loi. Mais le but de la vie, c'est que tu connaisses. Que les Juifs n'avaient pas la connaissance que les Juifs n'avaient pas quand ils avaient la loi. Ça, c'est une autre connaissance. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Mon peuple a du zèle, mais il manque la grande image. Je sais qu'ils veulent connaître Dieu, mais ils manquent la cible. Parce que nous pouvons tellement être pris par nous-mêmes. Nous gravissant les marches, et on se pose la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est bien ce que je fais? Et en pensant au salut, ça n'arrivera jamais. On ne pourra jamais être sauvé par nous-mêmes. Pensez à tous ces musulmans sincères. Et peut-être certains, beaucoup d'entre eux même, ne savent même pas ce que la religion veut dire. Ils font le ramadan. Et mangeant la nuit et pas le jour. Et ils font le pèlerinage à la Mecque. Ils prient. Et ils gardent ces lois. Mais est-ce qu'ils ont la connaissance? Et nous lisons au sujet de la violence et l'esprit des talibans. Et des juifs orthodoxes aussi, qui puissent être si sévères. Qu'ils peuvent lapider une femme ou alors, dans la loi islamique, couper la main à un homme qui a volé. Et j'ai dit une fois à un arabe, j'ai été un voleur, mais j'aimerais vous dire que j'ai deux mains aujourd'hui à cause de Christ, à cause de Christ et du pardon. Et dans certains concepts religieux, je perdrai ma main, mais dans cette religion, il y a la connaissance d'un Dieu qui n'est pas connu de Dieu véritablement. Dans leur propre structure, dans nos propres structures religieuses. Et je n'ai pas seulement deux mains, mais il me semble que j'ai même 10 mains. Parce qu'il y a une grande grâce qui nous est donnée du grand Dieu à ceux qui croient simplement. Au verset 4 de Romains 10, il est dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification. Et la parole veut dire ici qu'il est le but, la cible, la finalité. Et Christ, en fait, est la fin de la loi, dans le sens il est la finalité de la loi. La loi n'a pas été donnée comme un parallèle afin que nous soyons orgueilleux de nous-mêmes, de nos habiletés, de notre légalisme. La loi nous a été donnée pour pointer vers Christ. Et de fermer notre bouche et de nous rendre excessivement coupables, d'enlever de nous notre justice propre, car Christ est la fin de la loi. Au verset 5, il est dit, car Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi, l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Donc c'est tout ce que l'homme a. Il a un cœur vide, tout en essayant malheureusement de faire ces choses. Je garde la loi ou j'échoue de garder la loi. Et il n'y a rien. Il n'y a aucune connaissance de Dieu et la grâce de Dieu. Verset 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Allons de l'autre côté du dessin. D'un côté, il y a les marches que l'homme essaye de gravir, et de l'autre côté, nous avons Dieu qui est 3 fois saint et l'homme qui est pécheur. Il est pris dans les pièges de sa vie. Et Christ vient sur la croix. Et Dieu lui dit, Christ lui dit, je t'aime. Je te pardonne. Je te sauve. Je te sers. Et l'homme dit non. Je suis indigne. Laisse-moi plutôt essayer de monter les marches. Qu'est-ce que tu en penses? Et comme ça, je vais te plaire. Je vais aller à la marche 1, 2, 3, 4. Tu sais que je peux. Qu'est-ce que tu en penses? Et le Seigneur dit, mais là-bas, tu ne vas pas me connaître. Tu ne me connais pas là-bas. En fait, je veux que tu te sentes tellement coupable, tellement honteux. Savoir juste qui tu es en vérité, afin que moi, Dieu, parce que je suis Dieu, je vais remplir ta maison, ta chambre de ma présence et te satisfaire avec des bonnes choses et te révéler ma nature, et afin que tu aies la, que tu aies ma justice. Parce qu'en fait, tu dois être 100% juste, toujours, à chaque instant. Il y avait un homme, c'est une histoire, il y a un homme qui est au ciel, et il est parfait. Il se tient devant Dieu, et Dieu le regarde dans le visage. Et Dieu dit à l'homme, tu es merveilleux. Et Dieu dit, merci beaucoup, c'est vrai, je suis Dieu. Mais je vais te demander une chose, ne regarde pas de l'autre côté. Ne regarde pas de l'autre côté. Et donc l'homme est là, il regarde à Dieu. Et il me dit de ne pas regarder là-bas, et je suis parfait. Mais quelque part, d'une façon mystérieuse, mystique, quelque chose se passe, quelque chose arrive dans ma pensée. Il me dit de ne pas regarder là-bas, Et j'ai juste envie de regarder là-bas. Très vite, tu sais, juste tu tournes ta tête et tu reviens. Et je regarde à Dieu et Dieu me regarde. Et Dieu me dit, je pense que je t'ai vu regarder là-bas. J'ai dit, oui, c'est vrai, je l'ai fait, mais pardonne-moi. Et donc je lui dis, pardonne-moi, et Dieu dit, ok, je veux te pardonner. Bien sûr, mais sur quel bas je vais te pardonner? Comment je peux enlever ça? Oh Dieu, je vais jamais plus le refaire. Ok, disons que tu ne le fasses plus jamais, mais est-ce que cela va enlever le fait que tu l'as fait? Non, mais Dieu, je te promets que je ne vais plus jamais le faire. Et Dieu me dit, merci pour ta sincérité, c'est incroyable. Mais n'oublie pas que tu as désobéi, mais même une seule fois, tu es devenu moins juste que ce que je suis, parce que moi je suis parfait, et maintenant tu n'es plus parfait. Et comment peux-tu devenir parfait maintenant? Et la réponse dans le cœur de l'homme, c'est non, je ne peux pas enlever ce que j'ai fait. Il n'y a aucune façon que mon péché puisse être enlevé. Il n'y a aucune façon que je puisse devenir juste. Je peux monter les marches jour après jour, mais cela n'enlèvera pas le fait que tu as péché. Et c'est pour ça que Christ est venu et qu'il est mort sur la croix en tant qu'homme juste, afin que le juste devenant pécheur, le pécheur peut devenir 100% juste. Et dans 1 Corinthiens 5:21, il est dit, et maintenant, je suis ici. Et qu'est-ce que le Seigneur demande? Qu'est-ce que le Seigneur demande? Que juste de croire celui que Dieu a envoyé. Car sur le côté droit du dessin, il est dit, Dieu nous donne la grâce, nous sauve par grâce, juste au moment où nous croyons, en un seul moment. En combien de temps un enfant est conçu? Un sperme qui rentre dans l'ovule et voilà, c'est fini. Comment tu es né de nouveau? Juste par croyant en un instant. Tu crois dans le Fils de Dieu et tu es né et tu deviens 100% juste. 100% juste. La croix, c'est là où Christ nous sauve. Et maintenant, les Juifs et les Hindous et les Juifs ne savent pas ce que Jésus a dit à la femme au puits. Tu adores, mais tu ne sais pas ce que tu adores. Nous avons vu comment parler hier de la Turquie. Les gens sont musulmans, mais ils ne comprennent pas vraiment. Ils ne peuvent pas aller profondément. Ils ne savent pas. Tu adores quelque chose que tu ne connais pas. Mais regarde ce qui nous arrive à nous. C'est dans notre cœur. Regardez au verset 6. Mais voici comment la justice qui vient de la foi ne dit pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. On parle de géographie ici. Ne dis pas dans ton cœur, je vais monter au ciel. Ou ne dis pas, je vais aller à la Mecque, à Jérusalem, à
Shangri-La.
Shangri-La, peu importe, Baltimore, Genève, à l'océan, je dirais sous la terre. C'est ce que dit au verset 7. Ou qui descendra dans l'abîme, s'est fait remonter Christ d'entre les morts. Mais que dit donc la foi? La parole est près de toi. Dans ta bouche et dans ton cœur. La parole. Je cherche des mécanismes tout le temps et c'est ce qu'on fait tous, n'est-ce pas? Mais voici la parole qui vient de Dieu, en dehors de sa bouche, par la prédication, le prédicateur. C'est ce qui est dit au verset 14. Le prédicateur, les paroles de la Bible, les paroles de la Bible, les rémas, révélations, partout, dehors, dedans, dans les rues, sur les places, les paroles du Saint-Esprit que nous croyons. Et lorsque nous croyons, nous devenons nés de nouveau. Et maintenant, la connaissance de Dieu, et maintenant, les progrès que nous pouvons faire, c'est que nous grandissons en lui, parce que nous sommes nés de nouveau. Nous le connaissons dans notre cœur, et c'est même dans notre bouche. Les paroles de foi que nous prêchons, et c'est un mystère. Nous faisons ce que nous pouvons, nous obéissons, nous tombons, nous nous relevons. Nous nous décevons nous-mêmes. Je me lève, je vais me lever le matin. Je lui dis, je vais me lever à 6 heures pour avoir un temps, et je me lève à 10 heures. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas un bon chrétien, j'ai échoué. J'ai violé la structure que j'ai construite concernant ma foi. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et la Bible dit, ne dis pas tu vas là-bas ou tu vas ici, en bas ou en haut. C'est tout près de toi en fait. C'est dans ton cœur, c'est dans ta bouche. Quoi? La parole de la foi. Nous disons, Seigneur, je me suis levé à 10h30, qu'est-ce que tu penses? Et Dieu me dit, je t'aime d'un amour éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Ma grâce est suffisante. Sois rempli de l'Esprit. Mais Dieu, tu sais, j'ai échoué dans ma structure. Et le Seigneur dit, oh, mais c'est tellement petit comparé à ma nature. Ne me connais-tu pas? Je suis Dieu qui dit, prends ton lit et marche. Tu ne me connais pas? Celui qui a dit à pied, viens manger le petit déjeuner. Et je te dis, m'aimes-tu? C'est vrai que tu ne m'aimes pas vraiment, mais c'est pas grave, je vais prendre soin de toi. Prends soin de mes brebis, je vais te remplir à la Pentecôte et tu seras mon homme parce que ton échec n'est pas plus grand que ma nature. Et je sais que tu as regardé là-bas. Je sais que tu as regardé quand je t'ai dit de ne pas regarder et tu t'es retourné, tu as dit, oh pardon. Et je t'ai dit, bon, d'accord, mais cela ne résout pas le problème jusqu'à ce que le sang parfait soit déversé. Le sang de l'agneau qui a versé son sang afin que nous devenions justes et que nous vivions dans la parole de la foi et de la justice. Et la justice est révélée, nous est révélée. Vous n'avez jamais eu votre petit temps de prière? Vous n'avez jamais eu une structure de prière et tu as échoué? Et tu es occupé avec ça? Ton échec. Et peut-être tu te frappes toi-même, tu te blâmes toi-même, et tu te dis, non, mais c'est pas possible, je suis pas un bon chrétien. Et le Seigneur se frappe sur le front et dit, mais c'est pas possible. Ils ont la connaissance, mais pas la vraie connaissance. Oh, s'ils savaient seulement que de ma nature, que je suis le Dieu qui dit, que la lumière soit, et la lumière a été. C'est moi qui ai fait sortir Lazare de la tombe. C'est moi qui ai dit à Pierre, paie mes brebis, il l'a fait. Et que Esaïe a reçu de Dieu, mange le rouleau, et il l'a fait. Et la parole était dans son ventre et dans sa bouche. Et la parole va en nous. C'est la parole de la foi. Lisez au verset 8 avec moi. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Oh, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et bien sûr, c'est un verset que nous pouvons appliquer à n'importe quel moment de notre journée, dans nos difficultés. Si tu dis dans ton cœur, je sais que Christ est ressuscité des morts, et tu le confesses avec ta bouche, et cela, il y a l'Esprit de Dieu qui travaille pour nous, et il nous conduit dans la connaissance de Dieu, parce que ça, c'est plus grand que la connaissance de nous-mêmes. Un fou essaye de comprendre son âme dans Proverbe 18:2. Mais heureux est l'homme, béni est l'homme qui me connaît dans Jérémie 9:3. Le mécanisme, c'est la parole. Mais ce n'est pas vraiment un mécanisme, c'est la parole de Dieu vivante. Et c'est Jésus, la parole de Dieu en nous. Regardez au verset 11, 12, 13, 14. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Car quiconque croit en lui ne sera pas honteux. Je pense que lorsque tu iras au ciel, tu ne seras pas honteux. Nous dirons, oui, ça s'est passé, c'était vrai, je crois cela. Mais maintenant, je crois plus clairement que jamais. Car il n'y a pas de différence entre le juif et le grec. Car celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment donc invoqueront-ils en Afghanistan, en Tadjikistan, en Chine, en Vietnam? Comment donc invoqueront-ils au Mexique, en Europe, en Zambie, en Ouganda? Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? C'est une pensée logique. Ils doivent entendre. Et comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Et comment peut-il y avoir un prédicateur s'il n'y a pas de parole? Au verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? C'est ce que nous faisons dans notre assemblée locale, dans notre école biblique. C'est de recevoir la parole dans notre cœur. Il y a des gens qui m'ont appelé et qui m'ont dit, on parle les uns avec les autres, avec ma femme. Nous parlons de la parole que nous recevons. Nous sommes dans le garage et nous parlons du message. Le message du mercredi et vendredi, et nous ne pouvons pas attendre d'arriver et de venir le dimanche au culte, car la parole est tout près de nous, elle est dans notre cœur, dans notre bouche. C'est la parole de la foi et de la justice de Dieu est révélée, nous est révélée. Et nous ne sommes pas des propres justes. Nous ne sommes pas justes. Mais nous vivons par la foi, par la parole de la foi. Les paroles sont puissantes. Quand les enfants vous appellent, par exemple, c'est des paroles. Les mauvaises paroles amènent de la tristesse, les bonnes paroles amènent de la joie. Et j'aime lire certains messages qui amènent du feu. Donc la Bible, on la lit, et on devient amoureux de la Bible.
Mais
tu ne peux pas garder ça une semaine. Tu manges, mais tu as besoin encore le lendemain. Tu n'as jamais eu des paroles qui sont devenues tièdes. La lettre de la loi. Mais ce n'est pas les paroles que nous prêchons. Nous prêchons la parole qui est vivante. Afin que des hommes et des femmes soient envoyés par Dieu. Afin que des gens puissent entendre. Et que les gens disent, quoi? C'est incroyable. Oui, c'est sûr, c'est fou. Non, c'est merveilleux, nous disons. Cette folie est appelée la folie de la prédication qui défie les gens au-delà de, leurs escaliers, leurs marches, et qui dit, croyez, si vous croyez, Christ va venir dans votre cœur, si vous croyez, vous serez rempli de l'Esprit, si vous croyez, votre vie va prendre une autre dimension. C'est la connaissance de Dieu. Et nous disons, oui, oh, c'est merveilleux. Oh, je n'ose même pas dire ces mots qui peuvent sembler arrogants, le fait que je connais Dieu, mais j'ai trouvé ta parole et je l'ai mangée et elles ont fait la joie de mon cœur parce que je suis appelé par ton nom, ô Dieu. Voudriez-vous être appelé par le nom de Dieu? Quel nom? Il n'y a pas de nom comme celui-ci. Comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés, comme il est dit au verset 15, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Pasteur Manny, Pasteur Chuck, Pasteur John Jason, oh, comme ils sont beaux les pieds qui vont dans les villages. Pasteur Neil, Pasteur Nicoda, Pasteur Doug en Inde. Oh, comme ils sont beaux. Ils ont montré une fois les pieds de Mère Teresa. Ils étaient petits et sales. Mais ses pieds étaient merveilleux. Ils sont beaux. Ici sur la terre, on fait des concours de beauté en accord avec le visage et le corps. Mais en Dieu, c'est les pieds qui sont beaux. Parce que c'est avec nos pieds qu'on amène l'Évangile quelque part. Et nous prêchons l'Évangile afin que des gens soient nés de nouveau. Et c'est tout. Verset 15, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, qui annoncent les bonnes nouvelles. Et Seigneur, que dire des muscles? Et que dire du corps, du visage, de l'argent, du succès, des diplômes? Et le Seigneur dit, hé, arrête tout ça. Mets la parole de Dieu dans ton cœur et partage la parole. Vis avec cela par la foi. Et des choses vont se passer autour de toi, des choses qui viennent de moi, car je vais amener la croissance. Tu vas semer la semence et je vais amener la croissance. Et bien sûr que tout le monde n'obéira pas à l'Écriture. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, verset 17. Et là, est-ce qu'on entend bien la parole de Dieu? Mais il y a des gens qui n'ont pas obéi. Ils préfèrent monter les escaliers plutôt que de vivre par la foi. Il y a des gens qui veulent garder des systèmes. Je ne suis pas comme lui dans le système de comparaison. Et ils disent que Dieu sait combien bon je suis. Et Dieu dit, oh, si tu peux devenir plus misérable, ce serait bien mieux pour toi, afin que tu puisses le rencontrer et naître de nouveau. Parce que personne n'est né avec le caractère de Dieu. Tu dois naître de nouveau afin d'avoir le caractère de Dieu. Parce que cela t'est donné par grâce au travers de la foi.
Priez avec moi, s'il vous plaît.